Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Après avoir modifié certains contenus d'enseignement du CP à la 3e, le Conseil supérieur des programmes a eu la lourde tâche de revoir ceux des classes de seconde et de première dans le cadre de la réforme en cours du lycée et du baccalauréat. Les élèves de seconde, qui seront les premiers à connaître la réforme du bac, viennent de finaliser leur choix de spécialité pour la classe de première. À partir de septembre, il n'y aura plus de série en voie générale, mais des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts, de ses ambitions. Alors que le nouveau programme de philosophie fait polémique chez certains enseignants et que plusieurs professeurs ont fait grève de la surveillance des examens du bac lundi, quelles matières font une bonne éducation? Nous questionnerons les nouveaux enseignements du lycée en compagnie de Souad Ayada, philosophe et surtout présidente du Conseil supérieur des programmes. Bonjour Souad Ayada.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes philosophe. Et avant de parler des programmes, on va quand même parler un peu du bac philo, puisque vous avez soutenu une thèse de philo sous la direction de Jean-Louis Vieillard-Baron, l'islam des théophanies, structure métaphysique et forme esthétique. Vous avez été notamment particulièrement attentive à la philosophie hegélienne. Alors j'ai trouvé parmi les sujets du bac philo celui-ci: la pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, j'en pense que c'est un très bon sujet qui porte sur des objets qui ont été inévitablement abordés en classe par les professeurs, qui offrent une matière tout à fait pertinente pour réfléchir. C'est tout de même à cela qu'il s'agit de conduire les élèves. L'analyse de ce sujet offre toute la matière pour ce qu'on appelle problématiser, c'est-à-dire tout simplement mettre en évidence les difficultés et construire une réflexion en présentant des raisons et en les justifiant, en réfutant aussi ce qui...
Oui, parce que vous ne trouvez pas que ça fait un peu faux sujet ouvert ou vrai sujet fermé, Souad Ayada?
Mais écoutez, non, très sincèrement.
Parce que on sait bien quand même que la pluralité des cultures ne fait pas obstacle à l'unité du genre.
Ben écoutez, la question mérite d'être posée. Et c'est
comment vous l'auriez traité alors, ce sujet?
Non, je suis fort heureusement loin du baccalauréat.
Au-delà de ce sujet en particulier, il y a beaucoup d'inquiétudes parmi les profs de philo. Il y a eu de la grogne, vous le savez, oui, au moment du bac. Et on a l'impression que la philo, mais pas seulement elle, en fait, en général, les humanités sont profondément mises en risque par cette réforme. Comment une philosophe qui est à la tête du Conseil des programmes peut-elle laisser penser cela?
Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en résonance et qui constituent le mécontentement relatif tout de même des professeurs, notamment de philosophie. Moi, il me semble que il faut tout de même souligner ce que cette réforme a de positif dans la philosophie. Je voudrais souligner que aujourd'hui, tout invite à la dissolution de la philosophie comme telle, soit dans les sciences humaines, soit à sa confusion avec ce qui relève de la préparation à la citoyenneté, ce qui relève de l'acquisition de ce qu'on appelle l'esprit critique. Donc, dans ce contexte-là, moi, il me semble qu'un enseignement pour la voie générale, de 4 heures pour tous les élèves, quel que soit leur enseignement de spécialité, est une bonne chose. Je crois aussi que le maintien de l'évaluation de cet enseignement dans le cadre d'une épreuve terminale est aussi une bonne chose. J'ajouterais que, même s'il ne s'agit pas d'un enseignement de la philosophie comme tel, l'enseignement des humanités, humanité, littérature et philosophie, qui va devenir un enseignement de spécialité dès la première, ouvre tout de même des perspectives intéressantes pour les professeurs de philosophie.
Mais alors, on entend dire que tel ou tel philosophe ne serait plus au programme, qu'on va faire l'impasse. Alors, on entend Freud, Nietzsche, enfin, chacun en a pour sa paroisse. Et qu'en est-il réellement, Swada Yada ?
Écoutez, les discussions sur les programmes de philosophie, d'abord, c'est pas vrai. Les discussions sur les programmes de philosophie attisent des passions à peu près comme celles qui sont aiguisées quand on parle d'histoire. Il en va de nos passions républicaines, et puis de passions politiques. Alors, les auteurs que vous citez n'ont absolument pas été supprimés de la liste des auteurs. Au contraire, nous avons ajouté, c'était une proposition du groupe d'experts d'ailleurs, nous avons ajouté Engels pour que les œuvres de Marx et Engels puissent être étudiées en classe. Donc Freud et Marx ont parfaitement leur place dans...
Mais alors ça vient d'où cette crainte ?
Écoutez, je...
Vu de l'esprit, parce que on a aussi l'impression.
Je suis désolé que les professeurs de philosophie aussi participent de ces rumeurs, de ces qui sont le symptôme. Moi, je les prends comme des signes. Je n'ai pas à les juger comme les signes d'une inquiétude, mais je tiens vraiment à lever cette inquiétude. Nous avons maintenu, bien évidemment, les auteurs tout à fait dans la liste d'auteurs. Essentiel et sans parti pris idéologique. Nous veillons à ne donner aucune orientation doctrinale.
Même chose pour l'histoire. Alors là aussi, c'est traditionnel qu'il y ait effectivement des polémiques, et à juste titre,
oui,
sur l'enseignement de l'histoire. Quelle est la philosophie de la réforme en matière des programmes d'histoire que vous souhaitez, Swada Yada ?
Alors nous, en histoire, nous avons voulu... Pour les propositions de programme que nous avons formulées, certaines sont accessibles pour la seconde et la première, redonner des repères chronologiques. Alors ça ne veut pas dire accumuler des dates, mais c'est penser que on ne peut pas comprendre l'histoire sans qu'il y ait des moments importants qui soient connus. Et des dates et des événements connus par les élèves. Nous avons aussi voulu remettre le récit au cœur de la pratique des enseignants. C'est-à-dire que l'histoire, au sens premier du terme, c'est quelque chose qui se raconte, quelque chose qui fait sens et qui doit manifester à la fois les continuités et les ruptures. Voilà ce qui a guidé nos travaux. Alors, il y a des contraintes inévitables, des contraintes auxquelles le CSP ne pouvait pas être aveugle. La contrainte, c'est que il faut inévitablement, parce que c'est nécessaire pour la formation des élèves, revenir en seconde sur l'Antiquité et la période médiévale. Et il faut aussi, en terminale, arriver au plus contemporain.
Mais alors, le problème, Swada Yada, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu marche avant, marche arrière. Et vous choisirez où est la marche avant, où est la marche arrière. C'est-à-dire que on va vers l'histoire qui est l'histoire collective, qui est l'histoire science sociale. Ça, c'est un mouvement. Et puis alors, hop, on revient complètement dans l'autre sens. J'ai pas dit en arrière. Cette fois-ci, vers l'histoire récit avec des repères chronologiques. Pourquoi ces mouvements de va-et-vient ?
Écoutez, moi, je ne me situerai pas vraiment dans ces mouvements de va-et-vient parce que tout simplement, je ne suis pas historienne de métier. Et ce que nous avons voulu faire, c'est ne pas reproduire dans l'enseignement scolaire les débats entre historiens. Nous avons voulu penser un enseignement de l'histoire qui assure une formation la plus générale, la plus libre de tout présupposé historique.
Mais alors, justement, parce que là aussi, si on prend le programme de 6e sur un échantillon représentatif d'un élève avec qui j'ai discuté hier, mon fils, des programmes de 6e, il avait des dates à apprendre sur l'Antiquité. Je me disais que la plupart des adultes ignoraient tout de ces dates antique, on a l'impression qu'en France, on oscille entre des exigences qui sont absolument folles, comme celle par exemple de faire maîtriser à un élève de 6e la chronologie de l'Antiquité romaine, et puis à côté de ça, pour le baccalauréat, au contraire, des exigences profondément relâchées. Quel est votre point de vue, Souad Ayada ?
Écoutez, je pense que il faut arriver à conjuguer le souci dans notre système scolaire de déguiser le sens de la réflexion, déguiser l'esprit critique chez nos élèves, donc de leur donner les armes pour être des sujets libres, des citoyens.
Bon, mais ça, c'est ce que disent tous les présidents du Conseil des programmes.
Tout à fait, mais sur fond de connaissances assurées. Je crois que le point que je voudrais particulièrement souligner, c'est que il n'y a pas d'esprit critique sans maîtrise de connaissances, sans l'acquisition de savoir réellement intériorisé.
Le fait de faire supprimer les filières, là aussi, alors on voit l'idée, on se dit que les filières étaient des carcans, mais n'avez-vous pas peur de toute façon de recréer d'autres carcans, tout simplement parce que les lycées n'auront pas tous la possibilité d'offrir, je crois, les 52, 53 options possibles au baccalauréat, Souad Ayada ?
Écoutez, la suppression des séries dans la voie générale répondait tout de même à des constats partagés et elle était voulue par l'ensemble de la communauté éducative. Pour quelle raison ? On s'est aperçu que la série S, dans la voie générale, avait fini par incarner le baccalauréat général et par surtout accueillir des élèves qui n'avaient aucun goût et aucune capacité d'exceller dans les disciplines scientifiques. Tandis que la série L, finalement, la série littéraire, était choisie par les élèves qui ne pouvaient pas aller bien souvent, alors je ne généralise pas, oui, bien souvent, en S ou en ES. Donc là, la réforme permet d'offrir aux élèves le choix de spécialité, le choix des spécialités, dans le cadre effectivement de ce qui est offert par les établissements, pour aiguiser leur parcours, pour le préciser, et pour ne pas conduire les élèves qui n'ont aucun goût pour les mathématiques et qui n'en auront aucun besoin par la suite à choisir ce type de spécialité.
Bon, mais alors, regardez aujourd'hui la situation. On parlera tout à l'heure des mathématiques. On sera rejoint par un mathématicien, Michel Brouet. Mais en attendant, la situation est la suivante. Jadis, avec les filières, la philo, les lettres étaient en quelque sorte sanctuarisées. Aujourd'hui, les profs de philo y regrettent la disparition de la filière L. Les professeurs de sciences économiques, eux aussi, sont inquiets. Alors, ils se disputent avec les enseignants d'histoire-géographie pour récupérer quelques heures de la nouvelle spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. C'est-à-dire que, finalement, les filières, elles avaient bien sûr des défauts, mais elles avaient au moins un avantage, c'est qu'elles permettait à des élèves qui étaient par exemple littéraires d'avoir leur propre voie d'accès à l'enseignement supérieur. En les supprimant, est-ce que vous ne risquez pas de tout mettre par terre ?
Je ne porte pas la réforme comme telle, même
le « vous » ne s'adresse pas uniquement à vous, Souad Ayada.
Oui, j'entends bien. Écoutez, moi, il me semble que il faut revenir.
Mais cela dit, si vous voulez vous en séparer de cette réforme, vous avez la faculté de le faire.
J'ai accepté de présider le Conseil supérieur des programmes parce que j'estimais que c'était une bonne réforme. Pourquoi c'est une bonne réforme ? Parce que ces intentions sont bonnes. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Que se passe-t-il ? Nos élèves devenus bacheliers échouent quand même massivement dans le premier cycle d'université. Les élèves qui se destinent aux études littéraires, prenons le cas de ceux qui vont en classe préparatoire littéraire, en Hippocagne et en Cagne, ils viennent très rarement de la série L, vous le savez bien. Déjà, à mon époque, je dirais, nous venions pour grande partie des bacs C ou D, hein, des bacs scientifiques. Donc c'est cette situation-là, hein, qu'il fallait régler. Il fallait aussi penser, quoi qu'en disent les professeurs de philosophie, voilà, dont je comprends tout à fait les inquiétudes. Il fallait aussi penser une voie de réussite pour les élèves de la série L. La série L n'était plus tout à fait depuis pas mal d'années la classe de philosophie.
Mais si on essaye, alors ce n'est pas une solution miracle, mais si on essaye de faire des viatiques entre la série L, ce qui était le cas auparavant, et les grandes écoles ainsi que l'université, mais l'université c'était quelque chose de plus naturel, mm-hmm, en quelque sorte. Soit Dayada, n'y avait-il pas la possibilité de redonner justement une pleine dignité à la série L et de ne pas en faire un pis-aller pour ceux, et ils sont nombreux, qui n'étaient pas suffisamment forts en mathématiques?
Je crois que précisément l'introduction de ce nouvel enseignement de spécialité dès la première et qui pourra être poursuivi en terminale, d'humanité, littérature et philosophie, est une chance pour ces élèves qui pouvaient trouver dans la série L de quoi s'épanouir. Quel est le foyer de cet enseignement? Ce sont les humanités. Les humanités désignent d'abord, on le sait bien, la maîtrise du latin et du grec. Là, aujourd'hui, on ne peut bien évidemment pas se contenter de cela, on peut même pas s'appuyer sur cela.
Pourquoi ?
Ben parce que la maîtrise du latin et du grec n'est plus au centre de notre système éducatif, mais les humanités ont en revanche toute leur place comme attention, écoute des textes, hein, des textes d'hier et d'aujourd'hui.
Mais alors ça, est-ce que ça n'est pas regrettable? Je parle de l'abandon du latin et du grec, et parce que on vous a présenté, peut-être à tort, comme l'anti-Najat Vallaud-Belkacem, elle voulant en quelque sorte supprimer ces enseignements qui étaient des enseignements symboliques pour l'enseignement à l'ancienne, je le dis vraiment sans préjugé aucun, et vous avec la volonté de les rétablir.
Il ne vous a pas échappé que je n'étais pas le ministre de l'Éducation nationale et que je n'avais pas succédé à Najat Vallaud-Belkacem.
Ça ne m'a pas échappé. Mais encore une fois, si vous voulez nous dire quelles sont vos différences avec vos appréciations par rapport à Jean-Michel Blanquer,
absolument,
allez-y.
Pas. Absolument pas. Vous créez quelque chose qui voilà, n'existe pas.
J'essaye
du
de
tout
le faire un peu pour la seconde fois.
Mais... Alors. La volonté de Jean-Michel Blanquer, du ministre, a été de rétablir l'enseignement du latin et du grec, des langues et cultures de l'Antiquité, dans notre enseignement, et j'y suis, pour ma part, tout à fait favorable. Je trouve que c'est une excellente chose. Mais les humanités, ce que nous appelons les humanités aujourd'hui, ne peuvent plus tout simplement se contenter, hein, de ce que nous appelons les humanités classiques. Ce sont des humanités modernes, des humanités ouvertes sur les sciences sociales, les sciences humaines.
Soit Dayada, vous êtes présidente du Conseil supérieur des programmes. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. On parlera des humanités, mais aussi des maths, puisque vous serez rejointe par un mathématicien, Michel Brouet. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil si vous nous rejoignez. 3 jours après le début des épreuves du bac, nous questionnons les nouveaux enseignements qui entrent en vigueur en septembre prochain au lycée dans le cadre de la réforme du bac. Nous sommes en compagnie de Souad Ayada, philosophe et présidente du Conseil supérieur des programmes. Et nous accueillons Michel Brouet. Bonjour Michel. Bonjour. Brouet, vous êtes mathématicien et je vous ai demandé de nous rejoindre tout simplement parce qu'il est notamment en question dans cette réforme du bac de modifier la place des mathématiques. Alors il n'y aura plus de filières mathématiques, de filières scientifiques, comme on disait jadis, mais il y aura des options. Et si j'ai cité l'exemple des 8%, c'est parce que, toujours avec l'échantillon représentatif d'élèves dont je dispose, notamment l'un d'entre eux qui est en sixième, j'ai remarqué que ce qu'on lui demandait d'apprendre était d'une grande complexité. En tout cas, je n'y comprends pas grand-chose, tandis que des choses simples comme un pourcentage semblent aujourd'hui mal maîtriser votre point de vue de mathématicien.
Une vaste question. Mon point de vue de mathématicien, il ne date pas des réformes actuelles. Ça fait bien longtemps que moi et mes collègues pensons paradoxalement que les mathématiques sont maltraitées. Les mathématiques en France sont, par définition, en pratique, la discipline de la sélection. Et le fait d'être la discipline de la sélection les a transformés en outils assez systématiques d'apprentissage de règles. Nous avions coutume de dire que l'usage de la règle en mathématiques, c'était les coups sur les doigts. Et on a vidé les mathématiques de ce qui fait de ce qui est leur nature même, c'est-à-dire leur nature ludique, intuitive, poétique, imaginative. Et l'activité intellectuelle et pratique quasiment la plus ancienne de l'humanité tout entière.
Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui parle à Michel Brouet parce que vous êtes mathématicien, mais qui justement a du mal
bien sûr,
parler
c'est ce que je dis, c'est-à-dire que ça ne parle pas aux élèves, on n'a pas été capable...
Mais parce que vous aviez le virus.
Non, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de boss, il faut arrêter avec ça. Il n'y a ni boss des maths, ni virus des maths, il y a un bon enseignement, il y a de bonnes rencontres.
Tiens, vous pensez programmes. Que vous n'aviez pas de prédisposition que c'est
parce
que vous
avez... Jusqu'à la troisième, j'ai considéré, d'ailleurs à juste titre, étant l'enseignement que je recevais, que les mathématiques étaient l'enseignement le plus stupide qui m'était proposé au collège.
Et alors qu'est-ce qui s'est passé après?
Il s'est passé que j'ai rencontré un bon professeur et qu'on m'a commencé à me faire des mathématiques intéressantes, qui m'ont fait me poser des questions, qui m'ont étonné, qui m'ont enthousiasmé. Mais ça n'a rien à voir avec un virus, pas une maladie, les maths.
Soit Dayada, votre point de vue là-dessus, oui. Parce que les mathématiques maltraitées, alors évidemment, c'est contre-intuitif. Hein.
Oui, moi je souscris à ce que vient de dire Michel Brouet sur le rôle qu'on a fait jouer aux mathématiques dans l'institution scolaire. En effet, elle est devenue une discipline de sélection. D'une manière simplement d'orienter les élèves et non pas une discipline qu'on doit étudier en tant que telle, qui donne du plaisir à l'étude. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, Guillaume Merner, elle a été victime du destin de la série S dans la voie générale, puisque la série S a fini par accueillir la majorité des élèves, et des élèves qui n'avaient aucun goût ni pour les maths, ni pour les enseignements scientifiques. Alors, il me semble que, au-delà de la question de l'enseignement, c'est-à-dire des professeurs de mathématiques, de leur manière d'enseigner leur discipline. Il me semble que la réforme qui est soutenue par le ministre de l'Éducation nationale vise, contre toute attente et contre les attaques qui lui sont adressées, à valoriser et renforcer la place des mathématiques dans le lycée.
Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Brouet, vous qui êtes mathématicien ?
Écoutez, de ce que vient de dire ma collègue, je n'ai rien à dire. Si ce n'est que ça m'étonne que les mathématiques deviennent, pas tout à fait caricatural, ce que je veux dire, optionnelles. Les mathématiques, je l'ai dit en terminant mon intervention précédente, sont la plus ancienne des activités intellectuelles, des pratiques de l'humanité. Elles font une partie intégrante de la culture de base. Vous allez sans doute me poser la question, à quoi ça sert les mathématiques ? Écoutez, s'il n'y avait pas les mathématiciens, je ne veux pas être provocant, mais s'il n'y avait pas les mathématiciens, on croirait sans doute encore que la Terre est plate et centrée, je ne sais où, moi, à Jérusalem. On croirait plein de bêtises, j'allais dire, pardonnez-moi, plein de conneries. Les mathématiques sont l'activité la plus universelle qui soit. Je travaille, moi, aujourd'hui, avec des Chinois, des Australiens, des Américains, des Mexicains, et nous avons le même langage, la même intuition, les mêmes... C'est par définition, si on envoie des choses dans l'espace aujourd'hui, ce sont des mathématiques, parce que c'est la seule chose dont on peut espérer qu'elle serait comprise par des civilisations extérieures. Bref, les mathématiques sont le fondement même de l'humanité. Je pense que le problème sérieux posée par Madame Ayada sur la place des mathématiques dans la sélection ne devrait pas être réglée par une diminution de la place des mathématiques, mais par une réflexion de fond sur amener dans l'enseignement le caractère culturel, large, encore une fois, ludique, imaginatif et créatif des mathématiques.
Mais au-delà de ça, parce que, a priori, l'utilité des mathématiques, bon, personne ne la remet en cause, ou en tout cas, peu de monde, Michel Brouet, le hiatus qu'il y a entre un enseignement des mathématiques qui peut être perçu comme ambitieux et le fait qu'un élève de 6e ne parvient pas à maîtriser un pourcentage, ça, par exemple, ça vous inspire quoi ?
Je n'en sais rien à vrai dire parce que j'ai pas été confronté à un élève de 6e qui ne maîtrise pas les pourcentages, mais enfin sans prétention aucune, je pense qu'on peut le lui expliquer de manière assez simple le pourcentage. Mais le pourcentage n'est pas l'alpha et l'oméga des mathématiques. Encore une fois, les mathématiques s'intéressent. Les mathématiques sont le langage général de la compréhension du monde aujourd'hui, de la physique et presque totalement, et d'autres, c'est le langage qui rythme, qui cadre notre vie quotidienne, de l'ordinateur à la banque, en passant par la fusée, la régulation du trafic, les lunettes progressives. Toutes les mathématiques sont partout, et nous nous éloignons de plus en plus de la compréhension de ça. Les mathématiques sont l'apprentissage de la liberté de penser, sont l'apprentissage du questionnement de ce qu'on nous assène comme stupidité quotidiennement. C'est ça la question. La question, c'est apprendre à penser. Alors, bien sûr, dans l'apprentissage de la pensée, il y a le pourcentage, c'est pas difficile de dire.
Je me souviens, par exemple, d'un ministre de l'Éducation nationale qui n'était pas capable de faire une règle 2-3. Donc, vous voyez, il y a des lacunes.
Oh, on a eu beaucoup de ministres de l'Éducation nationale, y compris des gens qui étaient scientifiques, qui disaient beaucoup de conneries sur les mathématiques.
Non, mais là, c'était pas des conneries sur les mathématiques, c'était l'incapacité de faire une opération simple. Tout cela pour vous dire que il y a bien entendu cette vision poétique avec de la hauteur. Vous êtes là pour voir de la hauteur.
Guillaume Arnay, en 3 minutes, mais je vous jure que j'apprendrai à vos auditeurs la règle de 3 en 3 minutes. Là, donc on va pas le faire. Hein, mais bon, voilà, c'est pas le problème.
Moi, encore une fois, je suis parfaitement d'accord avec vous, Michel Brouet, sur le fait que les mathématiques sont une discipline fondamentale qui est le lieu de l'apprentissage de l'esprit critique. Voilà le lieu, voilà de découverte d'un pan tout à fait essentiel du réel. Je rectifierai un petit peu votre propos, si vous me le permettez, quand vous déplorez que les mathématiques deviennent dans la réforme un enseignement optionnel. Ça ne devient pas un enseignement optionnel, ça va devenir un enseignement de spécialité. Alors, qui sera choisi par les élèves. Il se trouve que, d'après les remontées, beaucoup d'élèves... Non, c'est pas tout à fait la même chose. Je crois aussi, si vous me permettez, que, et là vous le relevez vous-même, que la difficulté aujourd'hui des mathématiques, ce n'est pas la reconnaissance comme telle, c'est la manière dont elles sont enseignées. Elles sont enseignées de manière aride, d'une manière qui ne fait pas place à ce qui est nécessaire pour tous les apprentissages, c'est-à-dire le fait de déguiser l'imagination, de faire rêver un petit peu.
Oui, absolument, tout à fait d'accord.
Michel Brouet.
Ça pose un problème fondamental qui commence d'ailleurs dans les écoles primaires.
Oui.
On sait très bien que une très grande majorité des enseignants du primaire ont une formation plutôt littéraire et sont très mal à l'aise avec les mathématiques. Pourquoi ? Les raisons sont multiples. Une des raisons, bien sûr, c'est l'appel aux mathématiciens de la société extérieure. Pardon, mais la pauvreté des professeurs. Et c'est un problème majeur en France qui a commencé par les écoles, continué par les
pauvreté, lycées. C'est-à-dire
la pauvreté,
première pauvreté matérielle
pas
déjà.
Fric, quoi.
Oui,
pas gagner de matériel.
Les mathématiciens trouvent leur carrière en dehors de l'enseignement.
Vous savez que dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, on gagne littéralement 2 fois plus dans l'enseignement supérieur anglais ou allemand, et je vous parle ni de la Suisse, ni des États-Unis qu'en France. C'est un problème qui, je l'annonce aujourd'hui, pas le sujet, mais dans 10 ans, l'enseignement supérieur de la recherche fondamentale française est foutu. Il faut, ça, personne ne l'entend. Eh bien, évidemment que dans le problème qui nous occupe aujourd'hui, ça se reflète aujourd'hui dans l'enseignement. Il faudrait reprendre à la fois l'attractivité des carrières, mais aussi une formation et donc des formateurs sur les mathématiques. Enfin, il y a beaucoup de travail à faire. Mais je ne pense pas, là c'est mon désaccord avec ma voisine, je ne pense pas que ça passe par cette qualité optionnelle donnée aux mathématiques. Enfin, vous n'avez pas dit optionnel.
L'enseignement de spécialité.
De spécialité, voilà. Et ben, de spécialité, disons. Pour moi, c'est pas une spécialité. C'est la base de l'humanité aujourd'hui.
Michel Brouet, justement, au-delà de...
par ailleurs dans le tronc commun, à sa place dans l'enseignement scientifique qui sera enseigné à tous les élèves.
On va revenir là-dessus, mais au-delà, effectivement, du fait que les mathématiques permettent de savoir que la Terre n'est pas plate, qu'il y a effectivement...
Beaucoup de gens qui le croient encore. Hein.
Qui a effectivement, ben, peut-être qu'ils ne connaissent pas leurs règles de 3. Au-delà de ça, il y a également un discours de plus en plus présent sur... les algorithmes, le fait que l'intelligence artificielle va sauver nos existences, et pourtant on a l'impression qu'on investit peu en mathématiques, alors que, mais dites-moi si je me trompe, on pense que les mathématiques sont essentielles pour pouvoir coder, pouvoir développer différentes applications en intelligence artificielle, en informatique.
Oui, non seulement on le pense, mais c'est un fait. Aujourd'hui qu'il est de bon ton d'avoir des opinions et de tenir peu compte des faits, je précise que les mathématiques nous apprennent qu'il y a des faits. C'est pas à chacun son opinion, c'est à chacun sa description des faits, mais il y a des faits. Et c'en est un que de considérer que les mathématiques sont le langage essentiel de tout ce qui se développe aujourd'hui, industriellement, commercialement, autour de l'intelligence artificielle, mais du big data, mais des communications, etc. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, bien entendu.
Alors pourquoi en faire un enseignement de spécialité, Swadayana? Parce que moi j'ai, je ne sais pas ce qu'en pense Michel Brouet, mais moi j'ai une arrière-pensée par rapport à cela. On se dit finalement que là il s'agit de trier les élèves. Il y a ceux finalement qu'on va mettre au bord de la route et qui n'auront pas de mathématiques comme enseignement de spécialité, et puis les autres qui de toute façon continueront à apprendre cet enseignement-là.
Les enseignements de spécialité, tout d'abord, sont choisis par les élèves. Hein, on ne décide pas de qui fait des maths et qui n'en fait pas. Hein. Voyons la situation.
Vous savez que le choix des familles est toujours un choix sous contrainte qui peut se faire parce que les familles sont mal renseignées. Il y a toutes sortes de théories sociologiques cette fois-ci.
Exactement, mais enfin bon, et c'est tout de même les spécialités, hein, la situation est la suivante, les spécialités sont choisies par les élèves. 3 en première et ils n'en retiennent que 2 en terminale. J'aimerais quand même dire que vous avez souligné, Michel Brouet, les manquements, je dirais, avant le lycée. Je voudrais quand même rappeler toutes les mesures qui sont mises en place pour renforcer l'enseignement des mathématiques dans le plan mathématique qu'a décidé le ministre à l'école primaire et au collège, de telle sorte que tout de même le principe de proportionnalité, par exemple, puisse être acquis au terme de la scolarité obligatoire. Donc on va quand même dans le sens d'un renforcement des savoirs fondamentaux en mathématiques. Alors, pour ce qui est de la place du lycée, je maintiens que la place des mathématiques est profondément, a été pensée, et c'est une place qui est renforcée. De quelle manière? Précisément, en faisant des mathématiques un enseignement de spécialité. On ne choisira pas on ne fera pas une série S parce que c'est là où il faut aller, mais on pourra choisir, et les élèves le font assez massivement, en première, des mathématiques parce qu'on a le goût des mathématiques et on veut continuer à faire des mathématiques. Alors ça n'empêchera pas les élèves qui ne choisissent pas cet enseignement de spécialité, de continuer à faire des mathématiques dans le cadre de l'enseignement commun qui sera proposé en première et en terminale, qui va s'appeler l'enseignement scientifique, et dans d'autres enseignements où les mathématiques ont toute leur place. Je pense bien évidemment à la physique-chimie, aux sciences de la vie et de la terre, aux sciences économiques et sociales. on y fait des mathématiques aussi. Hein. Donc dire que les mathématiques disparaissent totalement de l'enseignement commun, c'est d'une part inexact et ce n'est pas reconnaître tout ce qui est mis en place.
Dans le détail, Michel Brouet, et sans nous perdre parce que nous, malheureusement, on n'a pas fait d'enseignement de spécialité en mathématiques, comment organiseriez-vous un enseignement en mathématiques, au-delà du fait que vous nous avez dit qu'il pouvait être ludique ou poétique cet enseignement-là?
Oui, d'abord je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Madame Ayada. Moi je ne dis pas, je ne sais pas si on dit que les mathématiques disparaissent, c'est pas la question, mais faire un enseignement de... Pardon, j'arrive pas à maîtriser votre...
De spécialité.
Vous êtes un spécialiste, Michel.
C'est ça. C'est comme si on me disait faire un enseignement de spécialité de français. C'est la base. Il faudrait que dans la société française, on prenne en compte une fois pour toutes, et non seulement, pas simplement dans la société française, mais chez nos dirigeants, une fois pour toutes, que, encore une fois, c'est
vous pensez qu'ils en doutent? Ils le savent très bien.
Mais pas du tout. Ils sont d'une ignorance crasse.
Mais moi,
tous
nos
politiciens
pas du tout,
sont d'une ignorance crasse.
J'en ai pas du tout ce sentiment-là. Ils savent très bien que la sélection, elle se fait là-dessus. Ils savent très bien que la sélection.
Avec la sélection, je vous dis qu'ils ne mesurent pas l'importance pour l'histoire de l'humanité, pour la pensée, pour la rigueur, pour la créativité, pour l'avenir. Je ne vous parle pas de la sélection. Que ce soit un outil de sélection qui soit mal utilisé et qui ait été nocif pour l'image et pour les mathématiques en soi, j'ai commencé mon discours par cela. Oui, ça bien sûr. Ce que je vous dis, c'est que le monde politique et de manière générale le monde qui nous dirige est d'une ignorance crasse en sciences et en particulier en mathématiques. Et je mesure mes termes, je ne cherche à insulter personne. La crasse, ils ne la portent pas, c'est pas parce qu'ils se lavent pas, c'est parce qu'on leur a pas appris, on leur a pas montré ce que c'était. C'est une situation épouvantable.
Alors, dites-leur, qu'est-ce qu'il faudrait faire apprendre à nos élèves, Michel Brouet, pour que ceci n'ait plus cette ignorance crasse en mathématiques, et pas seulement changer le programme de l'ENA en mathématiques, qui d'ailleurs doit être, à mon avis, assez léger.
Il n'y en a pas beaucoup, excusez-moi.
Il doit y avoir des statistiques, ils savent faire des pourcentages, mais pas les règles de 3.
Oui, mais vous êtes un peu obsédé, Guillaume Bernard, par les règles de 3. Écoutez, on va faire une petite séance de formation après.
Avec plaisir.
Parce que c'est franchement pas le problème, la règle de 3, hein, franchement. On va pas refaire ici encore
non,
une fois.
Quel est le programme de mathématiques que vous feriez, vous?
J'expliquerai comment les mathématiques ont rythmé l'histoire des idées philosophiques, des idées historiques, de la conception du monde, de ce qu'est notre univers, de ce que sont nos rapports avec, parce que c'est ça les mathématiques, c'est ce langage qui a cadré je ne sais pas de depuis le métrage des champs ou des paysans dans l'Antiquité jusqu'à la maîtrise des fusées qu'on lance aujourd'hui dans l'espace. Les mathématiques sont partout parce qu'elles sont, de manière tout à fait étonnante, de manière qu'on ne comprend d'ailleurs pas, elles ont une déraisonnable efficacité pour décrire le réel. Je montrerai aux élèves en quoi des tas de phénomènes concrets, réels de la vie quotidienne dépendent d'une explication, d'un langage mathématique et nous étonnent. Je montrerai comment les mathématiques sont stupéfiantes. J'essaierai d'apporter ce que les mathématiques ont apporté à l'histoire de l'humanité.
Et en matière de dosage, le fait que l'enseignement soit réparti entre algèbre, géométrie, probabilité, qu'il y ait plus ou moins de statistiques, est-ce que ça vous paraît être un dosage satisfaisant? Est-ce qu'il faudrait faire les choses de manière plus concrète? Je ne sais pas, moi, par exemple, en introduisant le codage ou l'informatique dès l'enseignement de mathématiques, Michel Brouet?
Oui, ça, je pense que je vais me lancer dans le détail de la répartition de diverses spécialités qui, au niveau de l'école et du collège, sont secondaires. Non, je pense qu'en effet, on devrait par exemple apprendre aux élèves, et pour apprendre aux élèves, il faudrait déjà apprendre aux enseignants à faire de la programmation, parce que voilà quelque chose qui est extrêmement formateur, qui apprend la rigueur du raisonnement, la rigueur de l'écriture, la précision, mais qui concrétise et qui montre la force du raisonnement mathématique. Vous écrivez des lignes de code et votre programme tourne, il tourne et il vous donne des choses que votre cervelle ne donnerait pas toute seule parce qu'elle ne va pas assez vite. Ça, c'est fondamental et ça repose en effet sur des règles mathématiques. Je pense qu'il faudrait beaucoup développer des activités ludiques je dis bien ludiques de programmation, au lieu de les faire jouer sur leur punaise de smartphone, de les laisser jouer sur leur punaise de smartphone toute une journée, on pourrait leur apprendre à programmer un certain nombre de jeux. C'est tout à fait faisable.
Vous avez eu un enseignement ludique en mathématiques, Michel Brouet?
Ça dépend. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'en troisième, j'ai eu un enseignement particulièrement emmerdant et nul. Et puis ensuite, je suis tombé sur une prof qui m'a amusé, surtout qui m'a intrigué. Ce qu'elle me racontait me semblait pas croyable, me semblait questionnable, etc. Donc j'ai commencé à m'intéresser. Il faut susciter la curiosité.
Je crois qu'au-delà de la question des programmes, il faut poser la question de l'effet professeur. Il faut un professeur, qu'il soit de mathématiques, qu'il soit de philosophie, qu'il soit de physique chimie, il doit troubler. Il doit d'une manière ou d'une autre déranger l'élève. Hein. Et ça, c'est vrai dans tous les cas. Tout ça pour dire que les programmes ne sont pas tout.
Hein. Vous êtes présidente du Conseil des programmes quand même.
Précisément en mathématiques. En mathématiques, mais oui, il faut le dire tout de même. Alors en mathématiques, qu'avons-nous essayé de faire dans nos propositions de programmes? Nous avons essayé de faire droit à des éléments d'histoire des mathématiques et d'histoire des mathématiques articulés à l'histoire des sciences et à l'histoire des grandes...
Ce qui est une tradition très française, l'idée qu'une science se comprend si on comprend son histoire.
Mais écoutez, en mathématiques, ça n'était pas le cas, en tout cas.
C'est pas du tout une tradition française. Moi, il m'est arrivé dans ma vie d'enseignant, de donner dans une antenne de New York University un cours d'une trentaine d'heures sur les mathématiques destiné à des étudiants qui n'étaient pas du tout mathématiciens et qui reposaient essentiellement sur l'histoire des mathématiques.
J'ai pas dit que c'était uniquement français, mais en tout cas, c'est un parti pris sur
une manière. Non, je crois pas vraiment.
Je crois que pour les mathématiques, en tout cas, ça n'est pas le cas. Donc, on a essayé d'introduire ces éléments-là, et puis on a essayé d'insister sur ce qui nous semblait être les insuffisances de nos élèves. Faire place à des moments rituels du calcul algébrique, parce qu'on s'aperçoit qu'arrivés au lycée, ils ont encore du mal à être tout à fait à l'aise avec les tables de multiplication. Il faut libérer leur esprit pour des opérations un peu plus complexes par ces rituels. Et nous avons tenté de mettre la démonstration. Hein, la démonstration à la fois comme ce qui donne plus d'intelligibilité et ce qui marque un niveau d'abstraction plus élevé au centre de l'enseignement des mathématiques.
Une réaction, Michel Brouet.
Ce que vient de dire Madame Ayada, si c'est vrai, me satisfait, parce que l'introduction de la démonstration, c'est par définition l'introduction de la rigueur, de l'honnêteté intellectuelle, l'apprentissage du raisonnement et de la critique du pseudo-raisonnement de l'autre, si je puis dire. De ce point de vue-là, le rapport qui avait été écrit par Charles Torossian et Cédric Villani mérite considération. Je suis pas tout à fait sûr qu'il ait été il a été mis en avant, mais a-t-il été mis en pratique maintenant? La question restera posée parce que
beaucoup de choses se mettent en place. Il y a des ateliers mathématiques. Bon, il y a quand même beaucoup de choses.
Un dernier mot, Swad Ayada, parce que on aurait pu parler de beaucoup d'autres sujets. Peut-être dire un mot sur l'enseignement de la laïcité, l'enseignement également de l'écologie, qui est aujourd'hui au cœur de la préoccupation de beaucoup de jeunes et de moins jeunes.
Oui, la question des enjeux climatiques, hein, de la question de la biodiversité aussi, hein, concerne l'école, mais elle se pose à plusieurs niveaux. Hein. Moi, j'ai été pour ma part extrêmement interpellée par les mouvements des jeunes, notamment, de défense de la biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique, ces mouvements vraiment de foule qui me semblaient, comme philosophe ça m'intéresse, être le symptôme quand même de la résurgence de sentiments apocalyptiques. Moi je crois que dans une époque de crise c'est tout à fait intéressant d'être attentif à cela. Un autre point qui me semble important, c'est que les tenants de l'altermondialisme, les théoriciens de la décroissance mettent en question, hein, plus souvent et plus ou moins directement, le capitalisme comme tel. Alors la question est de savoir si ces transmutations qu'on appelle de nos voeux vont conduire à la fin d'un certain modèle capitaliste, ou est-ce que ça n'est pas ce qu'on appelle économie verte, devenir les pratiques sociales éco-responsables, est-ce que ce n'est pas une ruse du capitalisme? Bon. Ça, c'est des questions qui n'intéressent pas directement l'enseignement, ce qu'il faut, les connaissances à transmettre, les savoirs à enseigner. Je crois que, précisément à l'école, ces enjeux sont essentiels, mais il faut peut-être préserver un peu les élèves de ces sentiments apocalyptiques et ne pas entrer dans les débats d'opinion sur les choix de société. Il faut se concentrer sur les connaissances assurées, les instruire de la recherche en cours et de donner des savoirs tout à fait stabilisés.
Un petit mot de conclusion, Michel Brouet.
Un petit mot de conclusion. Bien, je vais le laisser à un astronome anglais du début du siècle dernier. Voilà ce qu'il a dit des mathématiques. Ça va nous séparer un tout petit peu de la règle 3. Ne prenez pas mal. Il a écrit « La libération du carcan de l'espace et du temps » est une aspiration du poète et du mystique. Mais ce sont les mathématiciens qui l'ont réalisé. Je voudrais qu'on l'oublie pas.